désindustrialisation française.
Immigration
et préservation de l'environnement.
C'est la laïcité.
Système éducatif.
Croissance économique.
La République.
Du développement durable.
Le patriarcat.
La politique économique.
La réflexion sur l'urbanisme.
Vive la République. Vive la France.
Peut-on encore débattre en politique ?
Que veut dire aujourd'hui être de gauche ?
Et surtout, pourquoi ne pas explorer de nouvelles solutions ?
Je suis Lucie Casté, fonctionnaire spécialiste des questions économiques.
Je suis Saïd Benmoufok, professeur de philosophie, spécialisé dans les questions d'éducation.
Je suis Belir Nabli, professeur de droit public et essayiste.
Depuis quelques années, nous avons vu la pensée néolibérale envahir le discours médiatique. La gauche se dissoudre dans des concepts flous, des mots troubles.
Avec ce podcast, nous voulons remettre au centre du débat les fondements de la pensée de gauche, en allant à la rencontre de grands spécialistes qui portent une idée forte, une solution concrète à mettre en place.
Parce que la gauche n'est pas qu'une force d'opposition.
Bienvenue dans « On n'a pas tout essayé », un podcast proposé par l'Obs.
Alors Anne Lordelatte, vous êtes économiste, vous êtes chercheuse au CNRS et vous avez publié un ouvrage intitulé « L'État droit dans le mur » pour lequel vous êtes lancée dans un impressionnant travail de collecte et d'analyse de données avec pour objectif d'interroger l'action de l'État et d'essayer de comprendre ce que vous vous identifiez comme étant de la défiance citoyenne à son égard. Plus précisément, vous avez étudié la manière dont l'État intervient dans l'économie, soit en faveur des ménages, soit en faveur des entreprises. Et votre principale conclusion est que le rôle de l'État s'est progressivement transformé en profondeur pour se mettre au service du marché.
Bien, concernant la genèse de votre livre « L'État droit dans le mur », vous racontez une anecdote. En fait, vous êtes avec des amis, je crois que c'est une soirée, bon, et puis c'est des personnes qui sont un peu plus jeunes que vous, qui appartiennent à une génération militante, assez engagée, donc pour les droits humains, pour les questions environnementales, les questions écologiques. Et puis vous dites à un moment que vous êtes frappé par le fait que ces personnes, dans leur engagement, se réfèrent très peu à l'État, voire cultivent une forme de défiance très importante à l'égard de la puissance publique. Et donc, en gros, les solutions viendraient de différents acteurs, de la société civile, hein, pour le dire comme ça, mais surtout pas de l'État. Et donc, cette défiance à l'égard de l'État vous questionne, vous interroge, et vous essayez en fait de répondre à cette question. Pourquoi ? Pourquoi sont-ils aussi défiants aujourd'hui ? Pourquoi cette génération de militants est défiante à l'égard de l'État ? Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Justement, vous dites que cette génération cultive une défiance à l'endroit de l'État, mais en fait, en quelque sorte, cette défiance, elle date pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne. On se souvient que dès mai 68, il y avait des slogans contre l'État. Et puis, au fil des décennies, on a entendu différentes mobilisations sociales qui, à chaque fois, cultivaient cette défiance, regardaient l'État avec, comme un adversaire potentiel des luttes pour l'émancipation. Et donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette défiance à l'endroit de l'État aujourd'hui ?
Non, que la question de l'État et de l'État au service du statu quo des plus puissants comme un outil de domination, je crois que c'est vraiment quelque chose qui traverse l'histoire, en effet, et qui traverse les mouvements citoyens. Peut-être ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est l'urgence climatique, c'est la crise climatique qui amène un nouveau contexte à cette vieille question et qui est que on va avoir besoin d'un État fort pour nous protéger. La pandémie est le premier exemple, le premier choc mais d'une série, à mon avis, longue, malheureusement, d'un retour de l'État avec la politique du quoi qu'il en coûte, un État qui fait en sorte que l'économie ne s'arrête pas, que les gens puissent continuer à consommer, etc. Et puis surtout que les hôpitaux puissent accueillir des patients. Et donc, ce qui peut être le nouvel élément, c'est qu'on est dans un système qui va avoir besoin d'une protection forte. Et donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir à la répartition à la fois des ressources et des moyens alloués à cette protection ? Qui est-ce qu'on protège en premier ? Mais bien sûr que cette question d'outils de domination, elle est là et elle était là avant dans les luttes citoyennes.
Mais est-ce qu'on ne peut pas donner un peu raison quand même à cette défiance ? Autrement dit, la grille de lecture de l'État comme un instrument de domination de la classe bourgeoise, hein, pour employer des mots classiques, est-ce que c'est pas quand même en partie fondé ?
Oui, et puis les données que j'ai collectées ont tendance à confirmer qu'il y a une reproduction du statu quo et une protection du statu quo dans la façon dont on alloue l'argent public en France. Un bon exemple, c'est les subventions qui sont distribuées aux entreprises. Elles sont distribuées de façon prioritaire aux secteurs les plus polluants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la structure de l'économie, elle est carbonée. Les intérêts économiques qui sont dans de l'économie carbonée. Et donc, quand on aide des entreprises, on aide celles qui font la structure de l'économie. Et alors qu'aujourd'hui, on a besoin de faire une transition, on aurait besoin de remettre en question ce statu quo, et pour l'instant, personne ne le remet en question.
Donc, ça veut dire que la question, ce n'est pas plus ou moins d'État, forcément. C'est plutôt quelle action pour l'État ? Quelles sont les grandes orientations qu'on lui donne et quels sont les critères qu'on retient pour définir ce qui est une bonne action ?
Oui, le plus ou moins d'État, on y répond aussi avec les données. Il y a un grand malentendu, on a plus d'État aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale quand on était en pleine reconstruction et quand on planifiait. Donc en fait, on a déjà plus d'État. On en a eu significativement plus pendant le Covid, mais finalement, le Covid, ça ne venait qu'accélérer une tendance qui existait. On a plus d'État. Mais comme vous dites, la question, c'est une question démocratique, c'est une question de choix politique. Qu'est-ce qu'on fait de l'État ? Quels intérêts il protège, il soutient et quels projets, en fait, il porte avec les ressources de l'État ?
Est-ce que... On ne peut pas considérer, vous l'avez un peu dit, hein, que ça reflète seulement le fait que l'économie aujourd'hui est très carbonée, que l'économie n'a pas encore fait sa transition. Et donc, ma question, c'est à quoi ressemblerait l'économie dans son ensemble si les entreprises carbonées n'étaient pas subventionnées ?
Pour répondre de façon d'abord très concrète, aujourd'hui, l'État aide les entreprises à hauteur de 200 milliards à peu près par an, en moyenne depuis 2010, donc c'est un peu plus élevé aujourd'hui. Et là-dedans, en fait, l'essentiel des subventions vont au secteur carboné. De l'autre côté, avec sa main gauche, l'État distribue 37 milliards d'euros pour le budget vert. Donc en fait, on a une injonction contradictoire là, dans la mesure où vous avez un État qui dit à ses citoyens « je vais vous protéger, je prépare la transition écologique », mais avec 37 milliards, et de l'autre côté, avec 200 milliards, on continue, on perpétue cette structure carbonée du système économique. C'est ça, moi, que je voudrais mettre en évidence. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre les 200 milliards et tout réallouer directement au secteur vert, parce que d'abord, on n'aurait pas de quoi faire. En fait, 80% de notre économie est carbonée. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut opérer une transition et la plus rapide possible. Le problème, c'est qu'on n'a pas 15 ans, en fait. Il faut l'opérer de façon rapide. Mais de toute façon, ces 200 milliards, il faudrait... Je crois que l'objectif du livre... c'est de les mettre sur la table, dans un débat public, citoyen, et de dire maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que vraiment, on continue à distribuer ces 200 milliards sans poser aucune condition aux entreprises, sans ne mettre aucune sélection, condition sur les émissions carbone, et donc vos impôts financent en partie des activités climaticides, ou alors est-ce qu'on se pose la question de quels sont les secteurs prioritaires et comment est-ce qu'on essaye de rendre compatible à la fois effectivement l'emploi, mais la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.
Alors, votre questionnement revêt une acuité d'autant plus réelle que vous montrez dans votre livre que les entreprises payent moins d'impôts que les ménages. C'est un fait qui procède d'un autre fait. Depuis 40 ans, les impôts sur les entreprises ont augmenté moins vite que ceux qui concernent les ménages. Comment pouvez-vous expliquer cette évolution ?
Alors, il y a deux choses. D'abord... En fait, les ménages contribuent à 2/3 de l'action publique en France. Par action publique, j'entends à la fois la protection sociale et tout ce qui est action collective publique, donc services publics notamment, et aide publique aux entreprises. Donc, dans action publique, les ménages contribuent à 2/3 du financement de ça. Et un tiers, c'est pour les entreprises. L'essentiel, les entreprises qu'elles payent, c'est des cotisations sociales.
Quand vous dites qu'elles contribuent, c'est-à-dire c'est à travers les impôts, les taxes, et ça, la TVA, l'impôt sur le revenu,
en fait,
CSG.
En fait, les ménages, en gros, ils payent des impôts et les entreprises payent des impôts et des cotisations sociales. Les ménages, l'essentiel, c'est de la TVA. Donc d'abord, quand un ministre dit les Français qui payent des impôts verront leurs impôts baisser. Non, en fait, tous les Français payent des impôts. C'est vraiment important de le répéter. On paye tous des impôts via la TVA. Et il se trouve que plus on est pauvre, plus on paye d'impôts, en fait, de TVA en pourcentage de son revenu. Ça, c'est la première source. Ensuite, vous avez un peu d'impôts sur les revenus et très très peu d'impôts sur le capital payé par les ménages. Et après, l'autre tiers, il est contribué par les entreprises essentiellement via les cotisations sociales qui financent la protection sociale, qui financent essentiellement la retraite et la maladie. Alors, une fois qu'on a dit ça, deux tiers, un tiers, en fait, pour être très honnête, il faudrait le rapporter à du revenu. Il faudrait en fait se dire quel est l'effort fiscal à la fois des entreprises et des ménages. Parce que c'est normal, il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup de ménages et il y a moins d'entreprises, même si on ne produit pas tous la même chose. Et en gros, si on regarde les chiffres, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les courbes se croisent. En fait, l'effort fiscal des ménages, il n'a pas arrêté de grandir depuis 1949, alors que l'effort fiscal des entreprises n'a pas arrêté de baisser, et il a baissé particulièrement dans les 40 dernières années. Pour répondre à votre question, moi, la piste que je propose, mais qui était dans les cartons, en fait, hein, depuis très longtemps, qui est expliquée notamment par Michel Foucault à la fin des années 70, c'est qu'on a un changement dogmatique du rôle de l'État dans l'économie. En fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'État, il y a un nouveau contrat social, et l'État, il est là, notamment, pour construire de la protection sociale et des services publics. Il y a aussi énormément d'aides aux entreprises, on planifie. L'État, en fait, se substitue au marché pour la plupart du temps. Il y a une planification avec un État qui sait. Il sait mieux que le marché. Et ça, ça change dans les années 70. La façon dont on pourrait le résumer, c'est que, à partir des années 70, on pense que le marché sait mieux que l'État.
Pardon, je vous interromps, mais ça pourrait expliquer en partie le fait que les entreprises payent de moins en moins d'impôts, mais est-ce que ça permet d'expliquer que les ménages payent de plus en plus d'impôts ?
Mais parce qu'il faut bien financer l'action publique. Et ce qu'on voit, c'est que les prélèvements n'ont fait qu'augmenter, en fait, depuis 1949, ce qui n'est pas étonnant, parce que, heureusement, en fait, les services publics, on a plus de sophistication dans les services publics, on a besoin de plus de logiciels qui coûtent plus cher à l'école. À l'hôpital, on a des machines qui sont beaucoup plus chères qu'il y a 40 ans parce qu'on a fait des progrès médicaux. La protection sociale, on fait une meilleure protection sociale, vous savez, qu'il y a 40 ans, en fait. Évidemment que les retraités vivent mieux aujourd'hui qu'avant. Donc ça, on peut le remettre en question, mais moi, j'ai pas envie d'en mettre en question, ça. Maintenant, comme l'action publique, en fait, elle a des besoins, si vous baissez d'un côté, à un moment, vous mettez un peu plus de pression sur les autres. Donc, c'est vraiment ce qui se passe dans cette courbe, dans ces deux courbes qui se croisent.
Et justement, derrière l'évolution que vous pointez, est-ce qu'on ne voit pas déjà transparaître la pseudo-théorie du ruissellement ? C'est-à-dire, comment justifier la baisse des impôts dont bénéficient finalement les entreprises, très concrètement, très clairement ? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que finalement cette baisse relève de l'intérêt général ?
Si, bien sûr. Et justement, alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? C'est que... En fait, c'est ce qu'on a appelé le néolibéralisme, les nouveaux libéraux qui reviennent en force en fait dans les années 70. Mais c'est une théorie qui avait été élaborée collectivement dans les années 30 et juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1947 en Suisse notamment. Il y a une belle conférence qui s'appelle la conférence du Mont Pèlerin où en fait vous avez des intellectuels, des politiques, des économistes qui se réunissent et qui se disent bon, on reconnaît que la main invisible, le tout marché, ça ne fonctionne pas. En réalité, ça a amené l'autoritarisme, le nazisme, en fait, ça a amené la violence, cette montée des inégalités. Et donc, on voudrait refonder l'action, le système économique autour d'un État qui revient vraiment dans le jeu, mais il revient au service du marché. Parce que ces gens-là pensent fondamentalement que le marché, c'est mieux. En fait, on les appelle les nouveaux libéraux parce qu'ils reprennent l'idée que l'allocation optimale, elle passe par le marché. En fait, dès que vous basez les choses sur l'offre et la demande, en gros, ça fonctionne bien. On a un prix optimal, etc. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut qu'on ait un État qui soit le régisseur du marché. En fait, c'est un État qui fasse fonctionner le marché. Dès que le marché ne fonctionne pas bien, l'État doit être vigilant et l'aider. Et c'est vraiment cette philosophie qui va s'installer dans les années 70 et qui explique, du coup, moi, je ne parle pas de ruissellement dans le bouquin, mais ça n'est effectivement pas très loin. Aide les entreprises t'aideront.
Donc, un autre des enseignements majeurs de vos récents travaux, c'est qu'il faut, pour pouvoir vraiment quantifier à qui bénéficie l'action publique, à qui bénéficient les aides publiques, il faut regarder non seulement les subventions aux ménages et aux entreprises, les aides directes, là où l'État verse de l'argent et à qui, mais aussi, et on en parle moins souvent, ce qu'on appelle les niches fiscales, qui sont, pour tenter de l'expliquer assez simplement, une forme de ristourne, une forme de dérogation qui permet de ne pas payer un impôt donné. Et donc ça, c'est un manque à gagner pour l'État, une recette en moins qui lui permet de financer ses actions. Et vous montrez d'ailleurs que les montants de ces exonérations qui bénéficient aux entreprises sont croissantes et que c'est seulement en étudiant ces exonérations qu'on peut avoir une idée précise des volumes d'argent public qui sont destinés aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand ces niches sont apparues, comment et pourquoi ?
En effet, quand on regarde un peu les dépenses publiques, il y a une catégorie qui s'appelle affaires économiques. Mais dans affaires économiques, c'est censé être les aides au marché, mais que ce soit pour les ménages ou les entreprises, mais les aides au circuit économique, disons. Sauf qu'en fait, il manque quelque chose, il manque tout ce qui est niche fiscale. Dans les affaires économiques, on a essentiellement les subventions et les transferts. Pourquoi ? Parce que, comme vous venez de l'expliquer, les niches fiscales, ou ce que la comptabilité, en tout cas les finances publiques, appellent les dépenses fiscales, c'est du manque à gagner, c'est de la recette en moins perçue. Et donc, ça n'apparaît pas dans la comptabilité nationale, parce que dans la comptabilité nationale, on n'a que des dépenses. Et donc là, c'est intéressant, parce qu'il y a une contradiction. Vous avez à la fois une comptabilité nationale que vous pouvez aller regarder sur le site de l'INSEE, qui ne référence pas ces dépenses publiques parce que c'est un manque à gagner. Mais de l'autre côté, vous avez dans chaque projet de loi des finances depuis 1979 un rapport qui recense ces dépenses publiques et qui les appelle, pour le coup, dépenses fiscales. Ce qui est intéressant, c'est que sur aujourd'hui, les aides publiques aux entreprises, si on additionne, on a un peu de subventions, des niches fiscales et des niches sociales. Qu'est-ce que ça dit concrètement ? Ça dit qu'en fait, les entreprises, on les a essentiellement aidées, non pas avec des subventions, mais avec du manque à gagner fiscal, avec de la dépense fiscale. Pourquoi on fait ça ? Les premiers qui font ça, en tout cas sur les exonérations sociales, c'est vraiment c'est Balladur. C'est Édouard Balladur, avec cette idée que le travail est trop cher en France et que pour être compétitif, il va falloir baisser le coût du travail. Et donc, pour baisser le coût du travail, on va faire des exonérations sociales. Et alors, comme quand même les contributions sociales payent quelque chose, ça paye bien un régime de protection sociale, la conséquence, c'est que soit on va éroder un peu cette protection sociale, soit on va la faire porter sur les ménages via des impôts. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à changer un petit peu le principe. Les étudiants, on leur dit toujours, normalement, les prélèvements sociaux financent la protection sociale. Ben, en fait, en réalité, en France, maintenant, c'est aussi une grosse partie de l'impôt sur les ménages qui finance la protection sociale. Et en réalité, ce que vous disiez, la justification de mettre de la dépense fiscale, de la niche fiscale, c'est de réduire le taux de prélèvement en France, parce que vraiment, la France prélève beaucoup trop par rapport à ses voisins européens. Ça, c'était vrai dans les années 90, mais ce qui n'apparaît pas dans le bouquin, et c'est une collecte de données qu'on vient de faire là récemment, c'est que, en fait, si vous comparez le taux de prélèvement effectif net des entreprises françaises, net des subventions qu'elles reçoivent, net de toutes les aides qu'elles reçoivent, et si vous le comparez avec le reste de l'Europe, en fait, aujourd'hui, on est dans la moyenne européenne. La France est celle qui a baissé le plus son taux de prélèvement effectif net depuis les années 90. C'est important de le dire parce que ça déconstruit un récit. Et en fait, le récit aujourd'hui, Depuis que j'ai sorti le bouquin, moi, je reçois en permanence des critiques qui me disent « Mais si on aide autant les entreprises, c'est qu'elles sont extrêmement prélevées. Et donc, si on mite le système, c'est bien parce qu'il faut les aider, elles sont trop prélevées. Bah, » En fait, déconstruisons le mythe, c'est pas vrai. C'est plus vrai. En fait, les entreprises françaises, elles ne sont pas plus prélevées. Une fois qu'on a retiré toutes les subventions qu'elles reçoivent, elles ne sont pas plus prélevées que la moyenne européenne.
Dans ce narratif, vous avez au moins un argument ou une notion a priori positive. Et je voulais savoir si elle était mobilisée par les politiques pour justifier la politique de baisse d'impôts à l'endroit des entreprises. C'est la question de l'attractivité de la France. Est-ce que c'est central dans le discours ou est-ce que c'est tu, au contraire ?
Pour moi, il me semble que ce qu'on voit arriver dans les années 70, c'est vraiment le retour de cette idée que le marché, c'est mieux. Mais ce récit, il est porté par la globalisation et par le fait que tout d'un coup, on rentre en concurrence. C'était pas le cas avant, en fait. Les frontières étaient fermées, hein. Les frontières économiques étaient quand même plus ou moins fermées. On faisait du commerce entre nous en Europe, un peu avec les États-Unis. On n'avait pas du tout d'échanges financiers comme on le faisait, comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a une ouverture de la concurrence et donc un récit qui est très facile à porter et qui est probablement un peu justifié, hein, qui est, bah, en fait, on n'est pas seul au monde. Le coût du travail français justifié par le financement de la protection sociale, en fait, il est plus élevé que dans certains autres pays. Et donc, on va attaquer ça. Le coût du travail est plus élevé, les entreprises sont plus prélevées. Et donc, pour éviter qu'elles partent, on va baisser ça. En fait, on n'a pas évité qu'elles partent. C'est ça le problème, c'est que les délocalisations ont eu lieu. Et de toute façon, vous trouverez toujours du travail moins cher ailleurs. Vous trouverez aussi toujours des taux de prélèvement moins chers, moins élevés ailleurs. Donc en fait, ce récit politique, on comprend la logique, mais il y a eu un effet très délétère, à la fois sur la protection sociale et les services publics. Et il me semble que la crise climatique, elle vient questionner ce modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas un État qui est capable de nous protéger face à l'énorme choc climatique qu'on va subir et qui se met au service des entreprises et qui n'est pas capable de leur dire bah, « En fait, non, on va te contraindre, on va moins t'aider parce que tu pollues, on t'aidera si tu arrêtes de polluer. » Si on n'a pas un État qui fait ça, en fait, on ne s'en sortira pas.
Le sujet de l'impôt, il soulève aussi la question du consentement, qui est une question qui, historiquement, a joué un rôle majeur dans les révoltes populaires en France. Et on l'a encore vu récemment, ces dernières années, notamment avec les Gilets jaunes, qui, en grande partie, a porté sur la question des impôts liés à la transition écologique. Ma question, c'est est-ce que cette histoire du consentement à l'impôt, comment on peut la comprendre, d'abord ?
Ouais, on peut même lire la mobilisation contre la réforme des retraites à cette aune-là. C'est-à-dire que, en fait, vous aviez des gens, vous avez pas mal de gens qui sont sortis dans la rue en disant, le régime de retraite, les 12 milliards, on pourrait les trouver. On nous les demande à nous en nous demandant de travailler 2 ans de plus, mais on pourrait les trouver. Donc, il y avait déjà. Enfin, c'est vraiment les Gilets jaunes et la mobilisation contre la réforme des retraites. Pour moi, il y a un enjeu de justice fiscale très fort. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de justice fiscale? On a des politiques qui nous disent en permanence, dès qu'on peut, on va baisser les impôts. Donc là, au printemps, Emmanuel Macron annonce qu'il y aura 2 milliards de baisses d'impôts pour les classes moyennes. D'abord, on ne sait pas comment ça va être financé, mais ça veut dire que si on peut retirer 2 milliards, ça veut dire qu'ils ne servaient à rien, ces 2 milliards, en fait. Si on peut retirer 2 milliards des caisses publiques, ça veut dire que ces 2 milliards ne finançaient rien du tout. Donc, je pense que le récit politique, il est aussi beaucoup porté par dès qu'on peut, on vous baissera les impôts.
Et ça jette, a fortiori, le discrédit sur l'action publique en disant si on peut faire l'économie de 2 milliards, c'est qu'il y a 2 milliards qui sont mal dépensés aujourd'hui.
Voilà, exactement. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté avec le site, pareil, qui est sorti au printemps, qui disait « qu'est-ce que je fais avec mes impôts ?»
En avoir pour
voilà,
mes impôts.
En avoir pour mes impôts. C'est quand même une expression un peu particulière. Mais à la limite, en avoir pour mes impôts, c'est une façon assez populaire de dire finalement, les impôts, c'est au cœur du contrat social. On parle de répartition et donc, qui paye quoi, à quoi ça sert, est-ce que c'est bien utilisé. Donc, à la limite, on pourrait louer cette initiative. Le problème, c'est que ça ne parlait pas des niches fiscales, ça ne parlait pas du tout des exonérations sociales, etc.
Non, ça parlait du coût de l'éducation, de l'hôpital. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même, alors c'est un peu provocateur de ma part, mais il y a un ancien ministre de l'économie, je crois que c'était Pierre Moscovici, qui disait qu'il y a un ras-le-bol fiscal en France sous le quinquennat Hollande. Est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer que, effectivement, ce discours, cette doxa, en quelque sorte, s'est imposé dans l'opinion publique? Il y a trop d'impôts en France, il y en a marre, je veux payer moins d'impôts. Quitte à ce que parfois ce soit un peu contradictoire avec un appel de l'autre côté à la puissance publique pour toujours intervenir, venir en aide aux plus défavorisés, etc., etc. Donc on a quand même peut-être quelque chose qui relève de l'injonction contradictoire à l'égard de l'État. Moins d'impôts, mais plus d'actions.
En fait, depuis que j'ai sorti le livre, il y a plein de chiffres qui circulent. On me dit par exemple... l'État français, celui qui prélève le plus, rien que les cotisations sociales, ça représente tant de pourcentage du PIB. Oui, mais en fait, on a décidé de collectiviser la protection sociale, c'est-à-dire que ça n'est pas moi qui paye la santé. Je crois que c'est 98% des frais de santé sont pris en charge collectivement. Alors, si c'est pas 98, c'est 95. Mais on est à un niveau extrêmement élevé. On a très peu de dépenses privées de santé. L'école, on est au-dessus de 80%. Aux États-Unis, ça n'est pas du tout le cas. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un récit qui est entretenu sur la base de chiffres qui, en fait, ne sont pas forcément très bien compris. C'est-à-dire que, mais bien sûr qu'il y a un gros prélèvement collectif, c'est une décision collective. Sauf que ça m'évite, moi, de payer mon hôpital privé et mon éducation privée.
Donc les riches en ont pour leur impôt.
Mais bien sûr. Il n'y a pas tant que ça de redistribution en fait en France. Il y en a, mais la personne qui vous dit « je paye beaucoup plus d'impôts que ce que je ne reçois », en fait, il y a une étude de l'INSEE qui vous montre par décile de revenus que ça n'est pas si vrai que ça.
Dans votre ouvrage, vous vous concentrez beaucoup sur la dichotomie entre les ménages et les entreprises, mais vous ne regardez pas vraiment finement ce qu'on pourrait considérer comme étant des subventions ou des niches, des dérogations justifiées. Je pense par exemple au quotient familial pour les ménages. Ça se discute, mais on peut considérer que c'est justifié. On peut penser que certaines aides à l'innovation pour les entreprises sont des outils utiles pour verdir les outils de production, par exemple. Alors que y a des niches ou des subventions dont on peut considérer qu'elles servent simplement à enrichir ceux qui les reçoivent. Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des aides qui sont plus justifiées que d'autres? On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais ça me semblerait quand même intéressant de regarder ça. C'est quoi, à votre avis, le scénario qui vous semblerait le plus équilibré et le plus souhaitable pour l'économie?
Alors, premièrement, ça n'est pas à moi d'avoir un avis. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on en discute démocratiquement. Donc en fait, qu'on ait les données pour en discuter. Et c'est l'objectif d'un bouquin comme ça, c'est de donner des données. Mais il n'y en a pas du tout assez et j'espère que c'est le début d'un débat, qu'il y a d'autres gens qui vont produire des choses qui seront mises dans l'espace public. Ce que j'essaye, moi, de dire, c'est qu'on a un raisonnement économique qui peut nous éclairer dans certains choix. Mais en réalité, au final, tout est politique. C'est un choix politique. Si vous êtes plus attiré par la justice sociale, vous prendrez une autre décision que si vous êtes plus attiré par la forte natalité, ou j'en sais rien. Enfin, en fait, on a chacun des valeurs qui sont représentées dans des partis politiques, et c'est ça, à mon avis, le jeu démocratique.
Tout à fait. Et donc, j'aimerais vous inviter à nous dessiner un peu ce que serait ce nouvel horizon. Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui, ce nouveau monde qu'on souhaiterait appeler de nos voeux?
Il y a deux voies possibles, il me semble, à la fin de cet ordre politique et social. La voie pessimiste et la voie optimiste. Je vais commencer par la pessimiste pour essayer de l'évacuer, mais je pense qu'elle n'est pas du tout en train d'être évacuée. C'est qu'une fois qu'on aura remis en question qu'on aura effrité ce récit-là, il faudra parler répartition. Et la première piste, c'est de la droite radicale, de l'extrême droite. Si je dois répartir, je fais une préférence nationale. Et c'est ça qui est en train de se jouer en fait en ce moment. C'est une préférence nationale ou c'est une préférence sur des communautés qui représentent mes valeurs. En tout cas, cet enjeu de répartition, en fait, je le joue là-dessus. Et la droite radicale, il faut comprendre qu'elle ne fait que défendre le statu quo en fait, pour ne pas remettre en question ce qui devrait être mis en question, pour ne pas remettre en question les aides publiques aux entreprises, c'est les premiers à dire qu'il faut faire des exonérations sociales, hein, le RN. Ben pour ne pas avoir à déconstruire ces intérêts-là, on va se tourner vers un autre type de répartition, et donc on va aller vers de la défense de valeurs absolument indéfendables. Quoi, voilà.
Qui par ailleurs est totalement économiquement injustifiable.
Qui est injustifiable parce que, encore une fois, c'est vraiment pour défendre le statu quo, en fait. Donc c'est une fausse remise en question, mais c'est une piste qui peut donner l'impression qu'on remet en question l'ordre établi. Bon, la deuxième piste, elle est beaucoup moins... J'ai quelques éléments, je vais les donner, mais dans le fond, elle est beaucoup moins tracée que la piste radicale de droite. En fait, la droite radicale, elle existe depuis longtemps et elle est facile, elle est beaucoup plus facile en fait à établir. Alors, d'un point de vue économique, il me semble, je donne vraiment quelques pistes, c'est sélectionner les aides publiques, réorienter le budget. Vous disiez, ah bon, mais alors en fait, on a suffisamment d'argent. Je ne suis pas du tout contre lever un nouvel impôt, évidemment, mais déjà, reprendre ce budget et voir comment est-ce qu'on peut le réallouer sans... en train de vous dire qu'il faut prendre les 200 milliards et les réallouer de façon absolument radicale, différente, tout de suite. Mais en tout cas, il faut remettre ça en question. Donc, c'est sélectionner et opérer des transferts, en fait, des secteurs polluants vers les secteurs non polluants. C'est reprendre le contrôle citoyen. Et probablement qu'il y a beaucoup de choses, là, pour le coup, moi, je ne suis pas politiste, mais qui se dessinent dans comment est-ce qu'on fait délibérer en fait, les citoyens entre eux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de cette délibération citoyenne.
Anne-Laure Delatte, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui s'appelle « L'État droit dans le mur » qui est paru chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ce podcast a été enregistré au studio La Seine, produit par l'ACME, proposé par l'Obs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour partager vos avis ou pour proposer de traiter certains sujets dans de prochains épisodes. À très vite.